Welcome to the Freak Show.
Don't even try it, bro.
Welcome to the Freak Show.
The day will come.
They say he's a radical. He don't fit the game. A heart full of glory and a fist of pain. A couple of battle scars, but shit's the same.
C'est reparti, on vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée, comme vous voulez. En tout cas, Audrey, tu nous présentes tout de suite une émission spéciale ce soir.
Tout de suite, alors bonsoir, vous êtes dans le Freak Show, comme tous les mardis à 19h sur Canal B. Oui, émission spéciale ce soir, prévue depuis longtemps, avec un invité à la base qui, bien sûr, n'est pas là. Mais du coup, il nous a donné deux copains à lui. On a Briac et Guillaume de Spoilers, le podcast. Bonsoir.
Bonsoir.
Soir.
Ravi de faire votre connaissance. Je pense qu'on a même, plein de choses à se dire. Déjà hors antenne, c'était, on aurait dû nous enregistrer, c'était déjà intéressant. Et oui, effectivement, on refait un peu un format comme on a fait il y a quelques semaines sur le cinéma avec Charles et Fred. Là, on va parler séries. On en parle souvent, nous, dans le Freak Show, parce qu'on est des fans de séries. Et bah, c'était l'occasion de... Voilà, je vous ai posé pas mal de petites questions. Et puis, au cas où, comme c'est la crise, les gens ne partent pas en vacances. On aura plein de séries à vous proposer pour binge-watcher cet été ou quand vous voulez. Mais en attendant, eh bien, on ouvre du coup l'émission. Déjà, j'ai oublié de vous dire, on est le 24 juin, c'est la journée mondiale des amoureux de l'Alsace, mais aussi des sauveteurs en mer. Voilà. Bah, je cherche une vanne et je vous redis. On va du coup commencer avec un petit morceau. Alors du coup, il n'y aura que des morceaux de série. Et la première, c'est une série, j'espère que vous connaissez, c'est Get Down. Alors série qu'on a découvert en 2016 sur Netflix, réalisée par le grand Baz Luhrmann et Stephen Adly Gyrgyz. Get Down qui se déroule en deux saisons, qui raconte l'histoire de la naissance du hip-hop. Bien sûr, il fallait bien une romance là-dedans, donc ils nous ont pété une petite histoire avec une midinette. Mais on y retrouve surtout un tas de références hyper intéressantes. Et pour votre culture, The Get Down a été la série la plus chère de l'histoire de Netflix, avec un budget de 120 millions de dollars, soit un coût estimé à 7,5 millions de dollars par épisode, avant d'être détrôné par The Crown. Voilà, la bande originale, bah, c'est bien évidemment un truc de dingo, notamment le morceau qu'on écoute tout de suite qui s'appelle Device Gun de CG & Co. Bah oui, c'était à nous, on discutait. Et on est toujours à l'antenne, je m'entends pas, mais comme je suis sourde. Eh bien, si, on m'entend. Ok, alors spéciale série, Bria, Guillaume, parlez-nous d'abord un petit peu de spoilers, c'est quoi ? Vous êtes, en fait, vous êtes des anciens de Canal B, donc déjà bravo pour ce bon goût. Le Covid étant passé par là, vous avez lâché l'affaire et découvert que le podcast était cool aussi.
Ouais, c'est un peu ça. Alors, spoilers, bah, ça fait mine de rien 7 ans qu'on existe. Ça a été, pour ceux qui pourront s'en souvenir et qui chercheront un peu sur Internet, un festival il y a du coup 8 ans. Avant que ça devienne effectivement une émission de radio dans un premier temps. On avait fait un pilote qu'on avait eu le plaisir de soumettre à Canal B. Ils nous avaient dit mais oui, venez et tout. Et du coup, on a traîné un peu nos guêtres ici. C'était un plaisir de faire quelques émissions avant en effet qu'on bascule dans le côté podcast, donc disponible en ligne évidemment sur toutes les plateformes. Et nous, on parle principalement de séries avec cette petite particularité qu'on va être focus sur les séries des genres de l'imaginaire en particulier, donc ouais. SF, fantasy et fantastique. C'est un peu ces genres-là qui nous passionnent et qui ont aussi, il faut le dire, renouvelé et révolutionné même parfois l'univers de la série. On aura l'occasion d'en reparler.
Ce qui ne vous empêche pas, Briac, de regarder autre chose ?
Non, on regarde tout un tas de séries dans tous les genres possibles, mais
donc
c'est vrai qu'on a...
Votre métier, c'est regardeur de séries, du coup ? Comment vous faites ?
Littéralement, oui, parce que je suis chercheur...
docteur série, maintenant.
Je suis chercheur et je travaille sur les séries télévisées.
Sérieur.
Ouais. C'est vrai ? Putain, mais moi, si j'étais payé, vu le nombre d'heures que je passe, mais je serais hyper riche. Il faudra que tu me... Si tu cherches une assistante...
Je vais te filer les combines un peu, t'inquiète.
Est-ce que ça ruine les yeux, entre un métier comme ça ? Est-ce que t'es...
Je sais pas, t'as pas des malaises.
Surtout la SF, vous êtes pas épileptique ?
Non, heureusement.
Ça va, toi, effectivement, t'as un univers qui est un petit peu plus large par rapport à tes recherches. Par contre, t'as dû regarder énormément de fois les mêmes épisodes.
C'est ça, exactement.
Ah ouais.
Mais c'est un plaisir aussi.
Alors, dans podcast, vous regardez un épisode d'une série et vous en parlez après, c'est ça ?
C'est assez variable. On a plusieurs univers thématiques, on va dire. Soit, effectivement, on va parler d'une série en particulier, soit à l'issue de la fin d'une saison, par exemple. Récemment, par exemple, il y a eu la série Severance qui s'est terminée. On a fait une émission autour de la saison 2. Ou alors des thématiques un peu plus larges, comme par exemple la série semi-feuilletonnante formulaire, qui est un terme justement issu d'univers de la recherche. Vous savez, c'est ces séries où il va y avoir une trame, un fil rouge, mais à chaque épisode, on va résoudre un petit peu soit une enquête, soit une problématique. On pense à X-Files, par exemple, ouais. Une des plus connues. Et donc là, on va inviter quelqu'un qui va nous parler de ce sujet-là en particulier, des entretiens avec des professionnels de l'univers de la série, de la recherche. Donc c'est assez varié, à vrai dire.
J'ai vu que vous aviez fait un podcast sur Silo ou Silo, mais on en parlera tout à l'heure. Faudra m'expliquer parce que j'ai.
Voilà. J'ai pas pris mes notes.
La série dont vous vous lasseriez jamais de remater, ce serait quoi ?
J'ai réfléchi. Dur, hein ? Ouais, en vrai, moi je regarde peu. Je re-regarde peu des séries, en fait, tout simplement parce qu'il y a tellement de choses que je préfère découvrir un truc nouveau. Après, je crois que Scrubs, donc série un peu médicale, loufoque, comédie...
Ah, de geek total.
C'est probablement la série que j'ai regardée plusieurs fois et qui, malgré certains propos, on peut le dire maintenant, un tout petit peu problématique avec l'âge de la série, est quand même une série que je continue à regarder avec plaisir. Ouais.
Bah, ouais, moi, j'ai hésité... pas mal de séries, dont celle sur laquelle j'ai écrit une thèse. Je reviendrai là-dessus plus tard, peut-être. On verra. Mais non, et j'ai pensé aussi à une série comique, comme toi. Je pense que c'est aussi celles qui sont plus faciles à revoir. Ouais. Et moi, ce serait Arrested Development, alors qu'il n'est pas toujours aussi connu en France, mais qui est un peu vraiment une série culte pour les fans un peu de sitcom aux États-Unis. Et qui est sur Netflix maintenant, je crois, qui se regarde assez facilement. Et qui a en fait cette particularité d'être une série qui, pour une série comique, qui est construite vraiment dans sa narration d'épisode en épisode, ce qui fait que. Une scène qui semble pas être un gag au début, tu vois 4 épisodes après et tu revois quelque chose, tu comprends que en fait ça devient un gag rétrospectivement. Donc à revoir, c'est un vrai plaisir de voir des choses qui s'annoncent comme ça. Donc espèce de puzzle comique. J'ai dû voir 15 fois cette série.
Puis c'est vrai que les séries humoristiques ont peut-être aussi ça, qu'elles peuvent être mises en fond, on va dire, d'autres choses. Au bout d'un moment, quand on la connaît bien et qu'on aime écouter un peu la rythmique des dialogues et tout ça, ben voilà, on peut travailler ou faire la cuisine ou je ne sais quoi en parallèle et ça aide un peu au revisionnage aussi.
Ça doit être pour ça que la mienne, c'est Friends.
Eh oui, bah ouais. classique, effectivement.
Parce que, mais figurez-vous que c'est fou cette série, parce que je me suis battée quand même plein de fois toutes les saisons, et à chaque fois, déjà, je retrouve un truc que j'avais pas vu, et je me marre au même gag, mais mort de rire, tu vois, c'est fou quoi, le running gag. Oh, ils sont forts, à chaque fois je me dis ça, donc voilà. Toi, Arnaud, il y a une série dont tu te lasserais pas ?
Une série dont je me lasserais pas, s'il y aurait peut-être les trois premières saisons de Dexter.
Ok.
J'ai mordu parce que j'avais jamais vu un truc comme ça. J'arrivais même au départ, j'avais du mal à savoir si c'était un méchant ou un gentil.
Ah ouais, bah oui.
Et ça, du coup, ça m'a bien. Et puis il y a le fameux épisode où à un moment, il rentre chez lui. Et puis il appelle sa femme, le téléphone sonne, il se rend compte que sa femme est dans la salle de bain, je ne dirai pas plus si vous le regardez. Ouais. Et là, j'avais jamais vu un.
Ah, le scénario à l'époque est.
Un truc qui m'avait fait autant bader, comme on dit maintenant. Je m'attendais à tout sauf à ça. Donc voilà. Et puis après, moi, c'est les vieilles séries. Évidemment, Amicalement Vôtre, etc. Où ça apportait, on en parlait un peu tout à l'heure hors antenne, toutes les séries sont bonnes dès lors qu'elles amènent une nouveauté, un angle qu'on n'avait jamais vu, soit dans la façon de filmer. Par exemple, je me rappelle, j'avais acheté tous les DVD de Chapeau Melon et Bonnet Cuir pour les regarder en VO. Ah bah vas-y. En fait, il y a tellement de textes, donc il y a énormément de textes pour traduire, et en fait, tu perds toute la déco. Qui est complètement délirante, qui est très chiadée, qui est très. Et du coup, c'est très difficile de regarder les deux en même temps.
Ouais.
Maintenant, je suis quand même vachement moins série Netflix, etc. Je trouve qu'il y a des fois dans la. Les fins ne sont pas toujours très très bien abouties. Le jeu d'acteur n'est pas toujours à la hauteur des très très grandes séries. Donc je sais pas si c'est leur style à eux, si c'est parce que ça va vite, c'est parce que t'es tourné vite. Je sais pas, mais du coup ça me kiffe moins quoi.
Bah c'est pas ça le sentiment, vous qui êtes spécialiste des séries. Il y a quand même, j'ai l'impression, faut faire vite, faut se dépêcher. Sauf les grosses séries où je comprends pas, parce qu'il y en a certaines que ça fait 2 ans que j'attends la suite quand même. Ça j'arrive pas à capter, mais il y a quand même, je pense à Netflix, les séries sur Harlan Coben. Alors j'adore. Les scénarios d'Harlan Coben qui reprennent les bouquins, mais c'est tous les mois il y en a un nouveau que Netflix a produit, comme s'il fallait bouffer, faire bouffer. Il n'y a pas ce sentiment là depuis quelques années là.
Il y a peut-être un sentiment de trop plein presque. Je crois que c'est donc un des cadres d'une grande chaîne de câble américain qui avait utilisé l'expression peak TV, c'est qu'en fait on a énormément de séries en production. Il faut se dire, il y a 30 ans il y en avait peut-être 60, 80 en même temps, et là on a depuis longtemps dépassé les 800, 900, 1000 séries au-delà même des chaînes avec les plateformes de streaming, on se rend même plus compte quoi. C'est comment pouvoir tous regarder la même, pouvoir discuter de la même série, prendre le temps de s'attacher à une série, c'est plus le même rapport quoi.
Et puis malheureusement aussi, il faut le dire, il y a vraiment un aspect industriel en fait qui est rentré en ligne de compte. Les plateformes ont besoin d'avoir des nouveaux abonnés pour vivre, et pour avoir de nouveaux abonnés, elles doivent tester en fait des choses. Donc pour tester, elles produisent beaucoup de séries de genres différents. Parfois dans des univers similaires mais avec des petites déclinaisons, parfois en effet en adaptant un auteur à succès, mais malheureusement en fait à l'arrivée tout ne fonctionne pas, toutes ne sont pas forcément renouvelées, et donc on continue comme ça d'essayer jusqu'à ce qu'il y en ait une qui fonctionne. Et malheureusement, les plateformes aujourd'hui, en effet, produisent beaucoup de séries, mais des séries qui sont avec beaucoup moins d'épisodes qu'avant. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on se fadait quand même des saisons avec plus de 20 épisodes. Maintenant,
on est
à peu près à 8-10, on va dire, en moyenne. Et donc, dans des quantités qui sont phénoménales.
On ne parle pas souvent du côté social. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, Audrey, tu choisis The Get Down pour commencer. Ouais. Le mec qui est punk rocker, il n'est pas forcément autant fan que le mec qui est rappeur. Donc ça, je le dis un peu, j'exagère dans ce que je dis, mais il y a ce rapport presque intime qu'on a avec une série, comme le cinéma finalement, qui est lié aussi à notre propre culture. Il y a les trucs qui nous parlent. Je sais que moi, je connais des gens, les séries d'Arte, jamais ils les regarderont. Autant que moi, les séries de TF1, je crois que j'en ai jamais vu. C'est pas ça qui fait finalement la qualité, ou enfin c'est un jugement qui est lié à des choses qui correspondent à une expérience personnelle,
une culture aussi, je pense aussi.
C'est un investissement de ton temps en fait. La série, tu sais que tu vas mettre des heures de ta vie dedans, donc faut que ça te parle aussi de toute façon de base.
Est-ce que t'as envie de passer une soirée avec Mimi Mati, j'ai envie de te dire déjà, telle est la question.
Série iconique française quand même, pour le coup, une des plus vieilles séries françaises.
Il y a une série qui a cartonné en Angleterre qui s'appelle The Durrells, qui raconte une histoire d'une famille anglaise qui part vivre en Grèce à Corfou. Depuis qu'elle est sortie, Corfou est envahi par les touristes anglais, quoi. Il faut aussi se rappeler qu'avec Game of Thrones, je ne sais plus quelle ville, une ville avec une espèce comme Saint-Malo, vous voyez, une cité, et que à partir du moment où la sortie, ça me revient pas.
Malte, non ?
Non. En Croatie, je crois.
Ah, Croatie.
Je crois. Et à partir du moment où la série est sortie, eh ben ils ont été obligés de faire des tickets d'entrée dans la vieille ville, parce que ça a débordé de monde. Et il y a plein d'autres endroits dans le monde comme ça.
La série Outlander sur Netflix qui raconte justement la révolte jacobine des Écossais au moment du contre les Anglais au XVIIe siècle, je crois. Ouais. Ces lieux en Écosse réellement, effectivement, et notamment le lieu de la bataille de Culloden, qui est donc un des moments emblématiques de la série, a été effectivement envahi par les fans qui ont commencé, malheureusement, sur un site qui était en plus en reconstruction, parce qu'ils essaient de retrouver le lieu qui était tel quel historiquement, il y a un musée et tout ça, a commencé à être dégradé. Effectivement, c'est un peu dommage, c'est l'aspect aussi négatif de ça, c'est que, en effet, il y a de plus en plus d'endroits qui sont visités. Alors ça fait du tourisme et c'est cool, mais en même temps parfois
Dubrovnik,
c'est juste pour faire
Dubrovnik.
La petite photo,
ça m'est revenu.
C'est pour ça qu'il tourne rien au Mont-Saint-Michel.
Ah si, il y a Walking Dead.
Oui, c'est vrai. Daryl Dixon.
Voilà. Oui, c'est la série sur Daryl.
Voilà, c'est ça.
Spin-off récent.
Où ils étaient obligés de tourner entre 5h du mat et 9h du matin pour être sûr.
Après, le Mont-Saint-Michel n'a pas besoin de tourner.
Ben c'est pour ça que je dis ça, heureusement, quoi, parce que là, ils sont en train de le noyer, quoi. On fait une petite pause musicale et vous nous avez amené de la musique. Vous allez nous dire un petit peu qui a amené quoi. Là, on va partir sur la série Atlanta.
Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Oui, Atlanta, qui est une série créée par Donald Glover, donc le rappeur Childish Gambino aussi, qui acteur, scénariste, réalisateur, et qui est une série... grosso modo sur un type qui se rend compte que son cousin est en train de percer dans le rap et qui décide de devenir son agent, et qui va devenir une série de plus en plus bizarre et onirique au fur et à mesure qu'elle avance. Et le morceau que j'ai choisi, c'est le dernier morceau de la série, et qui est une scène très très importante qui, moi, en fait j'ai bien aimé cette série, j'ai décroché et la fin m'a fait repenser complètement la série. Donc je laisserai ceux qui ne la connaissent pas la découvrir et découvrir ce morceau.
On écoute les Funkadelic.
There's a song that I sing whenever I'm sad, feeling bad. There's a place in my head that I go when I'm feeling low. I can trust in the melody, in the song I can find me. Ever since I lost you, I've been so lost too. In our love there is harmony, and I want to see this love through with you. There is a song you can say when the love you have. Don't got to syncopate. Every word is in time, on time, at all times. In our love there is harmony, and I want to see this love through with you. There is a song.
There's a place in my head
some business if it's momentary. I wanna shop at a gag if it's a bottle of bag. I wanna strike the sack, I need the fan from it. I wanna shot in the dag, I wanna make the mag. I wanna lift the yak, I call the ends on it. I wanna take the truth where it lands on it. My God given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna kill. I'm a hammer, never turned up challenger. I wanna keep all of your charm in a canister. Do you inspire like the same bit Salinger? I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shadow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live a carry on, feels a real scavenger. That's my opportunity, keeping me from me.
To come by, take to my sky, never wanting, only one day. To live out of reach, sloping family, short to top. One to three, swallow the key, in their footprints I will follow. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business.
When the twilight is gone. When the twilight is gone, and no songbirds are singing, when the twilight is gone, you come into my heart, and here in my heart you will stay. While I pray, my prayer is to linger with you at the end of the day in a dream. That's divine. My prayer is a rapture in blue with the world far away and your lips close to mine. Same for as long as we live, that you'll always be there at the end of my prayer.
Je ne m'entends pas. Voilà.
The Platters. On reconnaît les voix incroyables. Par contre, c'est quelle série ?
Ah, c'est quelle série, Arnaud ? Parce qu'il n'y a que toi qui ne sais pas.
Twin Peaks ?
Ouais.
Mais moi, je vous la posais comme si j'étais.
Je ne sais pas, mais tu as la réponse sous les yeux.
Auditeur de base. Parce que les gens écoutent The Platters. Ils s'appellent Only You.
Ouais, bah c'est. Voilà. Et puis, est-ce qu'on aurait pu dire comme ça, de but en blanc, que ça vient de Twin Peaks, vu qu'on connaît l'univers de Twin Peaks ? Non. C'est quelle scène ?
Et là, c'est dans la troisième saison, dans le fameux épisode 8 de la troisième saison qui a fait beaucoup parler et qui est réutilisé à des moments clés de cette dernière saison, souvent assez inquiétant. Et qui détonne un peu avec l'univers de la bande-son de Badalamenti associée à Twin Peaks. Et dans cette troisième saison, on a d'ailleurs des morceaux qui ne sont pas composés par Badalamenti qui deviennent assez importants, donc... Je trouve assez fascinant ce morceau en plus, avec cette.
C'est le moment de nous le dire, c'est sur cette série ou c'est quelle série sur laquelle tu fais ta thèse, ton doctorat ?
Et oui, c'est sur Twin Peaks que j'ai fait ma thèse. Tout
c'est
à
vrai ?
Fait.
Ouais, ah ouais, c'est.
Ah ouais ?
Parce que la question est con, mais pourquoi ?
Alors en fait, j'ai travaillé sur l'influence de Twin Peaks, parce que c'est une série qui a la réputation d'avoir un peu changé la manière dont fonctionnent les séries états-uniennes, dans leur narration. Dans la tension au style visuel par exemple, et moi l'idée de ma thèse c'était d'aller vérifier si c'était vrai ou non, quoi, grosso modo. Donc je suis parti de ce point de départ là et j'ai travaillé effectivement sur la manière dont on peut trouver des bouts de Twin Peaks un peu partout dans les 30 ans qu'on suit la diffusion de la série, quoi.
Dans d'autres séries,
c'est ça.
Du coup, à la question, la réponse c'est oui.
La réponse c'est oui, mais.
Ah,
c'est ça. Et oui, chercheurs ils sont chiants. Mais l'idée c'est de dire effectivement, elle a changé beaucoup de choses, mais elle a créé une catégorie particulière de séries. Elle a pas influencé toutes les séries ensuite qui ont suivi. Mais effectivement, ça a pu changer des choses.
Et elle est très référencée dans plein de séries en plus.
Oui, complètement.
Et t'as fait quand même un parallèle avec le film ou...
Ah, je travaille sur le film aussi,
oui,
effectivement. Mais ça sort
aussi
un petit peu du cadre que j'étudie dans ma thèse, mais j'ai travaillé personnellement sur le film.
Là, t'es en train d'étudier, t'as pas présenté encore.
Si, j'ai soutenu, c'est fait.
Ça y est, t'as soutenu, t'es docteur.
Exactement.
Ouais. C'est fou, t'es docteur en série.
Docteur Twin Peaks.
Docteur House. Ouais.
C'est comme
fou.
Comme on aime à l'appeler.
T'en as jamais rencontré quelqu'un, je vais pas m'en remettre. Putain, maintenant on connaît un docteur en série, Arnaud. C'est un truc de fou, quoi.
Tu consultes ou...
Il y en a beaucoup en France, hein. C'est un milieu qui est riche.
Mais tu gagnes de l'argent.
Il va falloir avoir un poste ensuite, ouais.
Oui.
Mais
c'est ça. Il y a des gens qui embauchent avec un vrai salaire.
Alors, c'est-à-dire que moi, je suis prof d'anglais, quoi, du coup. Je fais des études d'anglais, mais je fais de la recherche sur les séries en anglais, du coup. Et après, je fais parfois des cours sur les séries.
Ah, ça doit être passionnant.
J'espère qu'on faut demander aux étudiants.
Oui. Non, mais c'est voilà, désolé, c'est sûrement des questions cons, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Guillaume se sent tout petit alors qu'il est plus grand.
Ah, moi je suis très admiratif. Non, mais en plus à Rennes, on a un peu une histoire avec la recherche autour des séries, parce qu'on a longtemps, moi j'y étais pas, hein, mais la fac Rennes 2 a longtemps accueilli les journées Lost, qui étaient justement des colloques autour de l'étude de Lost, notamment, et de Leftovers. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Moi qui viens plus. Un peu comme tout le monde de l'attrait en tant que public de la série, quand j'ai rencontré Briac et qui m'a fait découvrir tout ce pan-là de la recherche sur des séries, ça permet vraiment de changer le regard qu'on peut avoir sur des séries qui sont cultes, mais sur lesquelles on n'allait pas forcément chercher certaines thématiques. Je pense notamment, on en parle souvent, mais à la série Buffy, qui, je pense, pour plein de gens, peut paraître être une série assez teenager,
elle a mal vieilli,
popcorn, etc., et dans lequel il y a énormément de super thématique. Il y a vraiment aussi plein de choses qui ont changé dans l'univers de la série grâce à Buffy. Enfin, ils se sont permis énormément de choses, notamment grâce au fait que c'est une série avec plus d'un épisode et beaucoup de saisons. Donc on pouvait tester des choses, mais donc c'est hyper intéressant. Ouais, franchement,
moi, je me suis toujours demandé si Buffy ça avait influencé une autre série qui s'appelait True Blood, où je trouvais aussi qu'il y avait des lectures deuxième, troisième, quatrième degré des fois, où ça paraît juste un truc de vampire, mais en fait ça dénonce pas mal de choses politiques derrière. Alors souvent les trucs de vampire, de mort-vivant et tout, il y a quelque chose de très politique, raciste,
métaphore. C'est une bonne question, je ne sais pas.
C'est possible, je sais que True Blood c'est une adaptation de roman, alors il faudrait voir quand ils sont sortis, mais c'est à peu près au même... Enfin, je me trompe peut-être, c'est un peu au même moment que Buffy, donc je crois qu'il y avait un peu un moment vampire après première adaptation d'Entretien avec un vampire d'Anne Rice et tout. Bon, il y avait la mode vampire un peu, donc ça a dû se nourrir entre...
Alors comment ça c'est explicable, toi qui es docteur, c'est-à-dire comment on peut avoir une période où ça va être les vampires, après ça va être les morts-vivants, après ça va être la fiction, après ça va être...
Ah, ça c'est très difficile
de... marketing.
Les mecs qui se réunissent, ils disent, allez, on attaque les vampires là, ou
je pense que oui, mais c'est souvent après un succès. Enfin, d'ailleurs, une œuvre qui va un peu donner le ton, littéraire, cinématographique. Et on va se dire, oula, faut qu'on essaie de surfer là-dessus. Alors parfois ça continue à avoir effectivement des œuvres qui vont être intéressantes qui vont rebondir vraiment. Parfois ça s'écroule totalement en quelques années. C'est très difficile en fait. Le problème c'est toujours aussi cette volonté de répliquer un succès et d'imiter une série par exemple, qui a marché, alors qu'en fait souvent les grandes séries à succès elles créent leur propre public, quoi. Il y a rien qui leur ressemble avant qu'elles arrivent. Enfin bon, on pense à Game of Thrones par exemple. La fantasy à la télé c'était rien du tout avant Game of Thrones. Et maintenant tout le monde essaie de faire encore maintenant. Ça c'est
les fans d'Hercule et de Xena te détestent.
Ouais, désolé, les fans d'Hercule et Xena, mais c'est maintenant tout le monde essaie encore de faire un peu.
Il y a eu Viking dans la même période.
Bah, c'est un peu après quand même que ça commence.
C'est un peu
Viking.
Après quand même. Ouais. D'accord.
Et, c'est pas, et je pense que ça a bénéficié justement de Game of Thrones, parce qu'on voit le budget qui augmente au fur et à mesure de la série. Bon, je me trompe peut-être, je suis pas spécialiste de Viking. Mais,
après, Viking, ça a été aussi produit par Historia. Ou un truc comme ça. Donc il y a quand même derrière une volonté de raconter.
C'est un
ça.
Autre axe, ouais.
Mais on peut voir quand même le la patte Game of Thrones visuellement sur certains aspects.
Et la violence.
Et la violence, oui, c'est vrai. Non, mais oui, tout à fait.
La patte HBO, ils avaient déjà un petit peu fait ça avec Rome.
Alors, à la question si ta vie était une série, vous avez trouvé une réponse?
Oui, bah, sans surprise, vu que la série que je peux regarder le plus souvent, on va dire que c'est Scrubs. À l'époque, effectivement, je m'étais pas mal identifié au personnage de Scrubs, parce que on est vraiment sur un personnage qui va sortir de ses études et qui va découvrir le milieu dans lequel, pour lequel il était.
Tu bosses à l'hôpital?
Pas du tout. Mais on peut retrouver plein, je pense, on peut vraiment se représenter, en fait, ce que ça peut faire de démarrer dans la vie active, d'être un peu comme ça, ce personnage insouciant qui a plein de rêves, qui a plein aussi d'idées préconçues sur ce que va être son métier et qui va découvrir la réalité. Alors certes, la série est complètement drôle et tout, mais ce que j'adore avec Scrubs, c'est qu'elle a cette faculté de pouvoir passer justement du drame à la comédie et inversement très, très vite, parce qu'on est dans un hôpital et qu'à un moment donné, dans un hôpital, bah, les gens sont malades et les gens meurent. Et ils le font de manière... Enfin, moi, j'adore ces séries qui justement jouent sur cette ligne très fine entre ces deux genres-là. Et oui, je pense qu'effectivement, le personnage de Scrubs qui va grandir, et on va le voir grandir en 8 saisons, passer effectivement de ce jeune interne à ce jeune adulte qui va du coup avoir son groupe d'amis, puis qui va avancer dans la vie. Je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, ce gars, je le connais, quoi. Mmh. Bon, maintenant, aujourd'hui, ça serait peut-être moins le cas. J'ai eu un petit peu plus de mal à peut-être trouver une série qui aujourd'hui ressemblerait à ma vie. Mais en tout cas, je garde JD dans mon petit cœur de jeune adulte qui commence.
Tu nous aurais dit Breaking Bad, ça aurait été, ou Dexter, ça aurait été chelou.
Bah, c'est ça, c'est que voilà. C'est
après, le thème de l'hôpital, ça commence à saouler un peu, mais ça. Au moins 10-15 ans, là, on en a mangé Grey's Anatomy, toute la clique.
Ah, on s'en lasse pas de Grey's Anatomy. Il y a eu Hippocrate en version française. Autres.
C'est ça, ça saoule et en même temps, bah, ça a quand
ça
même
intéresse,
énormément
hein.
de succès avec la nouvelle série, justement, du créateur d'Urgence qui s'appelle The Pitt, qui est un succès incroyable, qui est très
bien. The
Pitt? The Pitt, ouais.
Ah ouais, d'accord.
Qui est une série où on va suivre une garde, hein, je crois, pendant 12 heures, 12 épisodes. Ouais. Donc un peu en mode 24 heures chrono,
d'accord.
mais en 12 heures.
C'est où ça, sur Netflix?
HBO Max.
Ah bah oui, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Et toi, Briac, du coup?
Oui, moi bah, j'ai un peu galéré aussi à répondre à cette question. Alors je vais dire Lost.
Ah bah dis donc.
Pour deux aspects. Le premier, c'est que c'est la série qui m'a fait aimer les séries. Ça m'intéressait pas plus que ça et ça a été la révélation. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, bah, Guillaume parlait des journées Lost organisées d'abord à Rennes 2 par Delphine Lemonnier et puis ensuite par Sarah Tuel et Claire Cornillon qui sont les journées qui, moi, m'ont fait découvrir la recherche sur les séries et qui ont ensuite joué ce rôle dans ma vie, bah, qui m'a fait arriver là.
Ouais, voilà, c'est plus le symbole
et
de
ensuite,
Lost, pas un personnage de.
Pas un personnage, mais aussi parce que Lost, donc une série que moi qui m'obsède, j'aurais pu dire ça que dans les séries que je revois tout le temps, mais qui dans sa narration. Créer un rapport au monde et aux autres qui, moi, fait écho vraiment avec mon expérience de la vie. Donc, c'est aussi... Ma vie est un peu Lost. Donc, il y a quelque chose qui résonne avec cette série pour moi. Donc, pas un personnage en particulier. Et je vis sur une île déserte aussi.
C'est vrai que ça aide.
Mais c'est vrai que Lost, toi qui es chercheur, qui es docteur, Lost, je comprends pourquoi il y a des événements autour de Lost, parce que le rapport sociologique là-dedans, c'est énorme, quoi. Ça a été pensé. On en parlait hors antenne parce que mon frère m'a dit qu'il n'avait jamais vu lui. Enfin, Arnaud, mon frère, personne
ne sait. Pas deux secondes.
Qu'il n'avait pas vu Lost et que moi, j'ai pas vu la fin, figurez-vous. Alors que j'étais à donf, mais on m'a tellement dit c'est tout pété que j'ai arrêté.
Et bah, les gens ont tort de t'avoir dit.
C'est vrai, mais je vais peut-être me remettre.
Mais revois tout.
Ouais, bah oui, il faut tout revoir, mais c'était incroyable. Ouais. L'arrivée de Lost, ça aussi, je trouve que ça a révolutionné la série.
Complètement.
Bah, tu me diras pas le contraire.
Ah bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Juste que tu vois la fin maintenant. C'est
bah, oui, bah oui, bah oui, je vais me relancer. Hein.
Et mais... ça a en plus d'autant plus d'intérêt de le revoir aujourd'hui parce que c'est justement disponible sur des plateformes. Et ouais. Là où à l'époque c'était un épisode par semaine et ça pouvait justement
avec un suspense de ouf.
Être un petit peu frustrant ouais. Parce qu'on attendait parfois même un an entre deux saisons, ouais. Forcément, avec des cliffhangers incroyables. Les plateformes ont ça que. On peut, si on le souhaite, passer directement à l'épisode d'après. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que ça a quand même un point positif, même si faut déguster ces épisodes. Mais c'est Lost, je trouve, enfin en tout cas pour moi, là je suis en train de le revoir justement actuellement, a presque atteint sa forme finale pour moi dans l'appréciation que j'ai de la série sur la plateforme, parce que je peux justement maîtriser mon rythme de visionnage et regarder 2-3 épisodes en une soirée. Ça me suffit, c'est bien, j'ai pas été frustré et j'ai pas eu à attendre, mais en même temps voilà, si je veux
mais
je t'avances
aussi
plus vite.
Ouais, parce que si on attend un soir, Lost c'est comme beaucoup de séries des années 2000, bah Grey's Anatomy, moi je me suis remise dedans parce que je suis une fille le cliché, j'étais saisons, en train de énorme. Me rendre compte que 21 saisons, ça fait 21 ans que je regarde Grey's Anatomy et qu'on se fout de la gueule des gens qui regardent Amour, Gloire et Beauté, mais en fait on est pareil quand on est fan de Grey's Anatomy, avec 24 épisodes.
Ah ouais, elle a une longévité incroyable.
Et bah ouais, 3 ans de visionnage, on a calculé, ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bon, un truc de fou. La série des années 80 que vous préférez ?
Bah là, c'est pareil, hein. Moi, dur, hein. J'étais pas tout à fait... Je suis né en 84, donc forcément, les souvenirs que j'ai, enfin ça va plutôt
en
être
décalage,
des souvenirs.
Oui.
Ouais, mais j'ai pas trop regardé, je pense, a posteriori des séries des années 80. Par contre... et on en discutait aussi un petit peu avant, il y a des souvenirs qui sont vraiment gravés au fer rouge,
ouais.
Des souvenirs de série, parce que c'est le début, en effet, notamment des adaptations animées de mangas qui arrivent en France. Donc moi, ouais. DBZ, Dragon Ball Z, ouais. Dragon Ball Z, ça reste un truc incroyable où, en effet, je me précipitais après l'école pour aller voir l'épisode, etc. Et je pourrais citer aussi Code Quantum, hein,
Qui
était
oui.
quand même une série. Alors on est
complètement taré.
Fin des années 80, 89. Mais pareil, c'est un concept incroyable. Et même si tu la regardes dans le désordre, c'est une série, je trouve, qui fait plaisir parce qu'à chaque fois on a des concepts qui sont cool et on a envie de comprendre en fait ce qui se passe, pourquoi ce personnage ouais. y voyage, et en plus on a comme ça ces petites capsules historiques qui sont
et on en
hyper
rêve,
intéressantes.
Hein, cette ouais. idée de voyage dans le temps, on va atteindre un suspense de fou puisque Briac nous dira après cette pause musicale sa série des années 80, parce que Arnaud, je crois qu'on a 5 minutes de retard. Ah. On va faire une petite pause avec et ben cette fois c'est Umbrella Academy et c'est les choix de Charles qui les absents toujours tort qui voilà, et Arcane aussi, j'ai vu que ce morceau là était aussi dans Arcane qu'on verra plus tard, What They Have Done to Us de Mako and Gray.
On in your head.
là, si vous êtes moins fan de séries, bah, en tout cas, vous pouvez toujours être fan de rock'n'roll puisque vous êtes sur Canal B et le groupe Psychedelic Furs, qui était très années 80-90, qui, on l'entend bien, cette petite connotation rock un peu comme ça, noisy et entraînante. C'était la BO de The Bears.
Il pique mes chroniques, mais ouais, The Bear.
Ouais, The Bear.
C'était la BO de The Bear, je voulais en parler parce que c'est une BO qui m'a quand même, une série qui m'a un peu transcendée. Il a fallu que je mette trois fois avant de, je me suis endormie quand même sur les premiers épisodes, j'ai mis un an. Hein. Voilà, réalisé par Christopher Stauber et dont on est tous accros donc depuis 2022, la saison 3 est sortie l'an dernier. Toutes sont dispo sur Disney+. The Bear, c'est surtout le charisme intégral de Jeremy Allen White qu'on a pu voir aussi dans les excellents Shameless US. C'est aussi l'histoire de Carmen, un chef cuistot qui commence à prendre un nom dans la gastronomie quand il hérite de la sandwicherie de quartier de son frère suicidé. Ouais, je spoil un peu, mais qui est toujours dans la série par l'excellent John Bertal, le méchant Shane dans Walking Dead. Voilà, les personnages sont hyper attachants. Vous avez vu The Bear, les gars?
Ouais, j'aime beaucoup moi personnellement.
Énormément d'Emmy Awards. D'ailleurs, je crois que c'est une série qui a le plus de nominations aux Emmy Awards, 23 une année. Ouais, et 15 records absolus, 15 Emmy Awards gagnés.
D'ailleurs, assez étonnamment, dans des catégories genre comédie. À quel moment? Non, je sais pas, c'est un peu bizarre.
Ouais, c'est quand même.
Mais tu peux remettre des prix parce que
où est-ce que tu la classes?
C'est partiellement comique, mais pas. Oui,
ça. Ouais, c'est plus drame que. Enfin, tu tapes pas des barres, c'est pas fun justement. Il y a un fond, mais énorme. Il y a une manière. Chaque épisode ne se ressemble pas. Il y a des flashbacks. C'est assez fou. C'est assez fou cette série. Tu l'as vu, Arnaud?
Pas du tout.
Eh bien, voilà.
C'est une recommandation.
Voilà. Je vous écoutais, ça donne envie.
Recommandation.
Saison 4 cette semaine, si je ne m'abuse.
C'est vrai?
Ouais.
Oh là. Wow. Là, là, là.
T'aurais jamais dû dire ça.
J'annule tout mon week-end.
Freak show les premiers sur les
C'est clair. On vous réinvitera pour nous donner les infos faux séries. On n'était pas encore dedans. Et toi alors, Briac, la série des années 80 que tu préfères?
Moi, ce serait probablement Clair de Lune. Avec Bruce Willis et Cybill Shepherd.
Mais
qui est une série que je trouve déjà très drôle et assez fascinant parce que c'est vraiment une des premières séries à avoir complètement expérimenté sur ces épisodes avec un épisode où d'un coup on a une pièce de Shakespeare, un autre qui devient un film noir, etc. Et
donc, on l'avait oublié celle-là.
Et une série qui est marquée par son époque mais se revoit extrêmement bien aussi. Donc moi je suis né dans les années 90 donc j'ai découvert après et je la trouve vraiment géniale et j'ai pu acheter les DVD, les revoir. Donc à découvrir pour ceux qui éventuellement ne la connaissent pas.
Ouais. Vraiment, alors qu'à l'époque quand j'étais gamine c'était un peu la... série un peu chiante qui était sur M6 quoi, tu vois, mais pourtant avec des acteurs de ouf quoi, c'est ça qui est...
C'était quand même un peu acide, c'était quand même un
ouais,
peu...
Ouais, mais t'avais 10 ans de plus, c'est
ouais,
normal,
c'est ça, ouais. Merci. Et du coup je l'ai regardé, je l'ai compris moi.
C'est ça. Et toi c'était quoi ta série
des années 80? Mais je suis désolé de le dire, mais quand même, Dallas m'a beaucoup marqué. Alors, je sais pas si c'est vraiment sorti début des années 80, fin 70, mais là, personne n'avait jamais vu ça. Mmh. Et puis, ça me rappelle vraiment ma jeunesse où le samedi soir, après Champs-Élysées, ça me revient, où les gens, même ils en avaient plus rien à faire de ce que disait... l'animateur de... Ils attendaient que ça. Et puis, j'étais gamin, ça me surprenait qu'on boive autant de whisky en 45 minutes. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de boire du whisky. Et puis, il y avait un impact, comme on le disait aussi, presque social. C'est-à-dire que quand, je ne sais plus quel acteur a un accident de bagnole, ou même quand il y a la mort d'une des actrices, etc. Mais les gens, ils se retournaient. Ils ont eu des milliers de courriers en disant, mais vous ne pouvez pas nous faire ça, etc. C'est vrai que tu la regardes maintenant, fou. Tu dis, c'est quand même la célébration du capitalisme, des enfants. Foiré américain qui creuse du pétrole, etc. Et puis, il y a des personnages complètement loufoques quand même, Cliff Barnes, des gens comme ça, qui étaient vraiment à part. On n'avait pas vu beaucoup de personnages comme ça avant. Après, ça coupe pas quatre pattes à un canard, comme on dit, mais c'était quelque chose, il fallait se rappeler de cette époque-là où les gens étaient fanatiques, en fait.
Moi, puisque vous me demandez, eh bien, c'est grâce à mes frangins parce que j'avais pas le droit d'avoir la télécommande de toute façon. Mais c'était Roseanne. J'adorais Roseanne qui a révélé John Goodman. Et Cosby Show, on était fans, même si maintenant, un petit regret. Mais Cosby Show, à l'époque, c'était quand même énorme. Ouais. Et Marié deux enfants. Ah ouais, parce que c'était quand même énorme. Les séries, bah nous, on était voilà. M6 à fond. Ouais,
et tu dois dire Madame est servie.
Madame est servie, bah ouais. On passait notre vie entière devant la télé, c'est vrai, à la maison.
Nounou d'enfer.
C'est... Une nounou d'enfer, c'est après. Ah. 90. Ouais. Okay, et du coup, on en vient à ça, celle des années 90, vite fait.
Moi, c'est bah, justement Souvenir, M6, la trilogie du samedi, je fais un package, voilà.
X-Files.
Je vous mets tout dedans. Eh ben non, justement, c'est ce qu'on pense, mais X-Files n'a jamais été dans la trilogie du samedi, malgré qu'on croit qu'elle aurait vraiment pu y être.
C'était quand alors ? Pour moi, c'était le samedi soir, moi.
Non, c'était, alors, vous re-regarderez sur Internet, mais il me semble que c'était le jeudi, et à un moment donné, ça a été décalé au vendredi.
C'est ça.
Mais en tout cas, je parle de Buffy, je parle de Charm, de Caméléon, Stargate, SG1, toutes ces séries-là qui ont fait, moi, en tout cas, mes soirées. Du samedi en famille.
Ah ouais, toi t'allais pas en boom quoi.
Je suis un nerd de ma plus tendre enfance, donc effectivement mes parents étaient plutôt fans de séries des genres de l'imaginaire, donc je leur ai emboîté le pas et j'ai adoré ces moments en famille. Et puis c'est des séries fleuves où qui sont un peu plus dures à regarder aujourd'hui parce que voilà, c'est un peu kitschouille, mais à l'époque bah, c'était super.
Briac, c'est Twin Peaks, non
vraiment, vraiment, mais ça aurait pu être X-Files, Buffy
aussi. X-Files, c'est... Arnaud, t'as un souvenir ?
En 90, sans faire un monologue, j'ai éteint la télé.
Bah, c'est vrai qu'en 90, tu vivais ta vie. Voilà. Ouais. Alors que moi, non, puisque je n'avais que ça à foutre et j'avais pas le droit de sortir. Et du coup, j'étais à fond dans Hartley, cœur à vif. Croyez-moi, j'ai pleuré parce que Drazik, je rêvais de le rencontrer un jour. Il y avait Ally McBeal aussi. Et Beverly Hills. Alors là, je vais te dire, dans le terme de série où tu courais après tes cours pour pas louper parce que ça commençait à 18h50, je vais te dire que voilà. Bref, c'est quoi la série la plus inutile ou ringarde à vos yeux ?
Question difficile.
Ouais.
Alors, on va dire que chez Spoilers, on est un peu, on estime en tout cas que il peut y avoir des plaisirs coupables, mais rien n'est vraiment inutile dans le sens où chacun peut trouver des choses à trouver. Voilà. Et donc, je vais prendre un peu le contre-pied. Je vous invite à regarder si vous l'avez jamais fait la série Le cœur a ses raisons, qui est une série québécoise qui parodie, qui pastiche justement des séries à la Dallas, les soap-opéras, et qui est ringarde mais à dessein. C'est-à-dire que c'est ringard, mais pour l'humour, pour justement tous ces traits qu'on le saupe, cette manière de réaliser, ces espèces de flou un peu bizarre, ces personnages bigger than life, et du coup
ça me dit quelque
elle
chose.
Est vraiment géniale cette série, les acteurs jouent plusieurs personnages en plus, enfin bref,
et
c'est
pas
vraiment
ça, une pépite. C'est le fameux gif où le mec se voit dans la qui est déguisé en femme et qui se voit dans la, qui se fait peur en se voyant dans la glace, ça vient pas de ça, Le cœur a ses raisons, parce que je crois qu'on
possible,
parodie,
c'est un générateur de mèmes assez impressionnant.
D'accord, oui,
Le cœur a ses raisons, donc c'est possible.
Briac ?
Non, bah, comme dit Guillaume, j'ai un peu du mal à choisir réponse de relou, mais oui, je me dis toujours que si j'accroche pas à quelque chose, c'est que c'est pas fait pour moi, donc ça peut être pour quelqu'un d'autre, mais bon, Plus belle la vie, voilà.
Ah voilà, j'attendais.
On va recevoir les messages.
Dans le genre de série, et il y en a plein, hein, vous allez tous me dire, mais la série avec la fin la plus pétée que vous ayez vue, c'est quoi ?
Moi, personnellement, ce serait Sons of Anarchy.
Ah ouais ?
Qui est une série que j'aimais bien, qui m'a un peu perdu.
Très bonne BO, par contre.
Ouais, BO très sympa, qui m'a perdu au fur et à mesure que c'est devenu de plus en plus alambiqué et que ça dure. Ouais. Et ça se rattrapait un peu sur la dernière saison, mais par contre, le dernier, je trouve ça vraiment presque parodique.
T'as pas aimé quand il lève les bras sur sa moto pour rentrer dans un camion ?
Ouais.
T'as pas, non ?
Et que le mec,
bah, moi non plus.
Le mec qui rentre dessus, il dit Jesus ! Ah ouais, j'avais pas compris, ouais. Ouais, là, je me suis sorti presque insulté par cette série,
c'est
ce qui est rare, mais là, vraiment, j'ai. Ça fait mal parce que le début est bien.
Ouais. Donc ne regardez pas parce que vous savez déjà la fin.
Regardez les premières.
Guillaume ?
De mon côté, je pense que récemment, j'ai été vraiment outré par la fin de The Umbrella Academy, justement sur Netflix, parce que la série adaptée de comics indé était vraiment prometteuse. Il y avait un univers, il y avait des personnages, donc un univers un peu de personnes un peu super-héros qui sont élevées dans une espèce de maison, un peu dans une école privée pour super-héros. Et puis, il y avait vraiment un univers qui était hyper intéressant, hyper coloré. Et vraiment, c'était de saison en saison la dégringolade. Et la dernière saison est une catastrophe à tel point qu'on voit même des techniciens dans le champ à certains moments dans des épisodes. Vraiment, ils ont arrêté de vouloir faire quelque chose. Et le dernier épisode, juste, bah, en fait... J'ai envie d'être grossier, je vais pas le faire, mais
tu peux, on est dans le freak show, hein.
Ok, bah chie sur les gens, clairement.
Oh putain, mais on est choqués, Guillaume.
Désolé. Non, mais parce que en fait, il annule quelque part tout le parcours des personnages quasiment en faisant une espèce de reboot un peu bizarre où tout va bien, alors que vraiment c'était pas du tout le parcours des personnages. Donc vraiment déçu de voir que Netflix a conclu sa série comme ça. Alors qu'elle a annulé des séries qui étaient bien mieux. Donc voilà, un petit peu triste.
Ouais, il y a des séries d'ailleurs annulées qui sont... c'est vraiment dommage. Ah ouais. Je ne sais pas si vous avez connu les... merde, il y a Tara dedans. C'est avec... Bah, on va faire une pause musicale.
Tara, elle est romantique.
Non, elle est schizophrène. Elle a plusieurs personnages.
Ah, United State of
United
Tara.
United State of Tara, ouais. Que j'ai adoré avec, comment elle s'appelle déjà, Nicole...
on la voit tous. Hein, mais
ouais, qui est une super actrice. Et cette série, j'ai adoré. Je ne comprends pas. Ils nous l'ont cassé comme ça, d'un coup, quoi. Bref. On en reparle après, mais on fait une pause musicale. Et c'est toi, Arnaud, qui nous présente une série que tu kiffes, avec une BO de
ouf. Oui. Alors, je trouvais cette série, elle a amené quelque chose. Les gens ont trouvé ça révolutionnaire, etc. Et puis, c'est surtout Nick Cave qui nous fait le générique. Donc, Peaky Blinders, pour ceux qui aiment bien les séries tendres qui se passent dans les hôpitaux, c'est pas celle-là qu'il faut regarder. On écoute Nick Cave.
Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, he'll get you some. You don't have no car, he'll get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, puis moi. Le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore ma voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse?
C'est ça qui est bien avec les génériques séries, c'est qu'ils sont pas toujours très longs. Parce qu'en fait, ils commencent la série au milieu du générique ou des trucs comme ça.
On est surpris.
C'était ouais. Arcane et c'était ton choix, Guillaume. Est-ce que tu nous expliques pourquoi? Parce que pour une fois, on a passé Stromae.
Et ma pomme. Je vous ai fait faire une incartade.
Voilà.
C'est effectivement Arcane, donc série d'animation disponible sur Netflix en deux saisons et qui use d'une bande originale pour marquer ses scènes fortes. Et donc là, on a entendu effectivement dans cette émission aujourd'hui deux scènes, dont celle-ci. On a entendu deux scènes, effectivement, parce que moi j'entends ces scènes quand j'écoute ces deux pistes, notamment ce morceau de Stromae et Pomme, qui est un moment assez iconique dans la saison 2 puisque on est dans une réalité alternative. Attention spoilers, notre podcast s'appelle Spoilers, donc soyez pas étonnés, on va spoiler des trucs. Et dans cette réalité alternative, les choses se passent bien et donc c'est hyper émouvant en fait de voir les personnages qui vivent une vie qu'ils auraient pu rêver alors que la série est un enfer pour chacun de ces personnages. Donc c'est un morceau qui accompagne ce moment-là qui est très touchant et donc je trouve que Arcane le fait bien comme d'autres de charger en émotion encore plus les images que l'on voit. Quoi.
Et il se passe effectivement quelque chose de fou avec Arcane. Alors moi, je suis passée à côté parce que c'est pas du tout mon délire, mais je le vois quand même chez l'ado chez moi qui est transcendé et qui me dit que quoi, tu connais pas ? Enfin, il paraît que c'est un phénomène de fou Arcane. Donc
En tout cas, donc la saison 2 est a priori la dernière pour l'instant. Après, on doute pas que Netflix continue avec donc les gens qui ont leur apporté le matériau origine, hein, qui est Riot, d'autres séries animées. Et ce qui est assez incroyable avec Arcane, en fait, c'est que ça part finalement d'une idée qui serait presque un produit dérivé, puisqu'en fait, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo compétitif en plus, donc vraiment très très loin du grand public. Et donc Fortiche, hein, boîte d'animation française, a réussi à en faire quelque chose qui est vraiment un objet sériel, qui est hyper intéressant, qui est une des animations les plus belles qu'on aura vues, je pense, ces dernières années, avec Spider-Verse, par exemple, et qui renouvelle vraiment le genre animé. Enfin, c'est quasiment impossible de le faire sans un énorme budget. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de faire leur Arcane maintenant et qui vont malheureusement pas réussir, parce que je pense qu'il faut beaucoup de moyens pour avoir ce degré-là d'animation aujourd'hui, quoi.
On parlait justement tout à l'heure de ces phénomènes de mode. Tu demandais, Arnaud, et qu'on se disait, bah, il y a eu les vampires. Après, il y a eu le succès des Walking Dead et des zombies qui a fait venir. Et c'est ça, non? Tu dis Arkane, c'est un jeu de vidéo. Et là, il y a aussi ce phénomène Last of Us, qui est quand même incroyable comme série, je trouve, qui est aussi un jeu vidéo. Donc, ce serait peut-être cette mode-là en ce moment.
Oui, je pense qu'on peut le dire. Enfin, en tout cas, après l'adaptation de littérature, globalement, la série est beaucoup adaptée de romans quand c'est pas une idée originale, de sagas, etc. Y a eu quelques tentatives ces dernières années d'adapter des films. Ça existe, hein, des univers de films, mais en série pour essayer de poursuivre l'expérience. Ça a pas trop très bien marché. Aujourd'hui, effectivement, on commence à savoir adapter des univers de jeux vidéo. Alors au cinéma, ça existe depuis longtemps, mais c'est rarement réussi. Et là, ça y est, ces dernières années, avec notamment The Last of Us.
Mais il paraît qu'on est vraiment dedans. Quand t'as joué au jeu à Last of Us, t'es quand même.
On peut débattre, je pense, de l'intérêt.
On n'a pas
de
le temps, mais
justement, parce que c'est du copier-coller quasiment.
Ouais, c'est du ouais. Mais vous avez aimé?
Je pense qu'on est un petit peu partagé sur la question. On a plutôt bien aimé.
Moi, j'aime bien, mais avec des réserves sur l'aspect adaptation, justement. Ouais. Mais la série, c'est qualité, c'est
mais
ça.
Souvent, nous, on en parlait. C'est mon frère, c'est Arnaud qui m'a fait découvrir ça. Mais on parlait de Walking Dead, on était fans. Et tu vois, autant les zombies ont commencé à me gaver au bout d'un moment. Mais là, les méchants, je n'expliquerai pas pour ceux qui n'ont pas vu, foutent vraiment les boules dans...
Walking Dead, puisque tu en parlais, et si tu as lu les BD avant, c'est pas exactement dans le même sens, c'est pas exactement, c'est plus valable, c'est encore plus intrigant dans la BD. Ils en ont fait une version.
C'est tout l'intérêt d'une adaptation aussi. Enfin, aujourd'hui, on est dans cette problématique-là de réussir à créer quelque chose de nouveau sur un matériel connu. Et c'est toute la difficulté. Et effectivement, l'adaptation, c'est hyper important. C'est ce qui va faire qu'une série va être particulièrement remarquable par rapport à son matériel d'origine. Mais c'est dur de faire de la bonne adaptation.
Ouais. La meilleure série romantique pour vous. Pour des
très,
fans
très
de
dur.
SF, je sais que ma question était un peu... un peu con.
Non.
Ok, vous en avez une à nous conseiller?
Moi, je me suis un peu creusé les méninges parce qu'effectivement, j'ai pas forcément des séries que je regardais en me disant séries romantiques auxquelles j'ai accroché particulièrement, même si je suis assez fleur bleue en vrai sur les séries que je regarde. Et en fait, j'ai pensé à une série où vraiment un couple était important et a fait partie de mon plaisir de regarder les séries. Et c'est Hannibal, en fait.
Oh ouais?
Ouais, cette adaptation donc, des romans de Thomas Harris avec Hannibal Lecter, où en fait, au fur et à mesure que la série avance, il y a une relation amoureuse qui n'est jamais consommée entre Hannibal Lecter et Will Graham, qui est
agent du FBI.
Ouais, mais comment on dit, ceux qui travaillent sur les serial killers, les...
Ah, les profilers. Profiler
qui donc a une capacité d'empathie surdéveloppée, qui va du coup, son univers va se mêler à celui d'Hannibal, il va être sous son emprise, et ils vont cette relation-là qui est... toujours à la limite, presque. J'ai envie de se toucher, on a l'impression de s'embrasser, ça vient jamais. Et ça fait vraiment le sel de la série, c'est très très fort. Et donc, voilà, une série romantique. Alors, un amour, pas un peu toxique, on va pas se cacher, mais donc je peux recommander en tout cas pour cet aspect-là, outre les nombreuses qualités de cette série.
Et moi, j'ai été chercher du côté de Black Mirror, étonnamment.
On n'est pas dans le romantique-romantique.
Black Mirror plutôt triste.
Dernière saison?
Alors, j'ai pas regardé la dernière saison encore.
Non.
Ne dites rien.
D'accord.
Mais je parle de l'épisode San Juanipero, donc quatrième épisode de la saison 3, qui a fait date parce que c'était un peu la première fois que Black Mirror, tout d'un coup, ne racontait pas un truc horrible, mais plutôt quelque chose de très beau, avec effectivement cette relation entre deux femmes qui, à travers un monde virtuel, vont pouvoir bénéficier quelque part d'une jeunesse amoureuse et d'un couple qu'elles n'auront pas eu la chance de vivre de leur vivant. Je vous dis que ça parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais et dans Black Mirror il y a quelques épisodes effectivement qui creusent un peu cette fibre romantique et qui, je trouve, ça fait du bien parce que sinon c'est vraiment Black Mirror, c'est où la technologie, c'est mal. C'est un peu dommage de ne voir que ça, alors que ça peut aussi créer de belles histoires, quoi.
Je suis déçu, vous n'avez pas du tout cité L'amour en héritage.
Peut-être. Ils n'ont pas la référence.
Ça manque à notre culture.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, par contre, mais en vrai, moi qui regarde beaucoup de romances, Fleabag, grosse claque.
C'est vrai, je n'y ai pas pensé.
Et tu vois, quand on parle des séries où on est frustré de ne pas avoir une suite, ils ont arrêté Fleabag, c'est un scandale. Et en plus, elle a eu des prix en plus pour sa série.Ourquoi elle a arrêté?
C'est elle qui n'a pas envie de continuer.
Ah, c'est elle, mais c'est nul, c'était tellement génial.
Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle a dit qu'un jour elle allait au bout pour elle. dans 20 ans, peut-être elle fera la suite, mais comme s'il y a un côté autobiographique et des éléments de sa vie, il faut qu'elle ait d'autres, un peu de carburant pour continuer.
Donc, d'accord, bah, pourtant, on voulait savoir si vraiment un jour elle a dépucelé le prêtre, quoi. Bon, on fait une pause musicale. Est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on zappe un morceau?
Non, on peut peut-être écouter Can I Get a Witness?
Eh ben d'accord, ok, on fera ça. Et puis j'expliquerai du coup tout à l'heure de quelle série c'est.
Voilà, c'est ça. Hop, un petit mot justement, on vient d'écouter le morceau Lulu, Can I Get a Witness. Donc tu nous avais dit juste avant.
On devait écouter d'autres musiques, mais du coup, petite pause.
Ouais, ouais, une petite pause, parce que le morceau d'après, je voudrais le mettre vraiment presque à part. Il m'a marqué beaucoup. Mais c'est surtout que tu nous avais dit que tu nous dirais la série. Et avant qu'on passe à autre chose, j'aimerais bien que tu me parles de cette série.
Minx, est-ce que vous avez vu Minx?
Voilà.
Non.
Ah bah dis donc, vous avez pas vu une série que j'ai vu. OCS pour la France, HBO pour les USA. Je vais être rapide, c'est série à l'histoire et la BO dingue déjà, réalisée par Hélène Rapaport et malheureusement arrêtée à la saison 2 en 2023. Voilà, encore une série qui, voilà. Minx, c'est l'histoire d'une jeune féministe engagée qui va s'allier à un véreux loser incarné par l'excellent Jack Johnson que vous avez pu voir dans New Girl notamment, qui est très drôle. Et voilà, ils se mettent ensemble pour éditer le premier magazine de presse érotique à destination des femmes, et c'est très très drôle, et il y a une BO incroyable. Voilà, bah regardez Minx, je crois que c'est sur Prime, je ne suis, ou Netflix, j'ai dit quoi, enfin bref, c'est une super série.
Voilà, moi voilà. Je faisais un petit break parce que justement je voulais revenir sur le morceau là qu'on va écouter maintenant. On en parlait tout à l'heure hors antenne, c'est le genre de générique. Là, si on revient vraiment, on se détache un peu du série au sens presque cinématographique, réalisation, etc. C'est la puissance des génériques dans certaines séries. Il y en a eu quelques-unes qu'on a encore en tête. Je crois que Amicalement Vôtre, c'est quand même, même quand tu mets la première note de piano, tout le monde te dit ce que c'est, ce qu'il a vécu dessus, et refait la série presque. Et là, moi, c'était... moi, je suis pas très série française, j'en ai pas regardé même beaucoup dans ma vie, mais Les Revenants, j'ai vraiment trop kiffé. Et je me disais, alors Mogwai qui a fait la musique, je suis par contre assez fan, j'ai une espèce de mélancolie naturelle dans leur musique. Et là, je me suis dit, est-ce que le mec qui a fait sa série, il s'est dit, je vais mettre naturellement Mogwai, puisque comme il y a dans cette série aussi ce petit côté un peu, je dirais presque cold wave, un petit peu froid, un petit peu... je sais pas, on se pose plein de questions et la musique, elle est dans le même style, vraiment. Cette musique, t'entends les quelques premières notes et tout de suite, t'es transporté. Est-ce que vous avez, du coup, et c'est là pour ça que je voulais faire un break, des musiques comme ça où vous dites, tiens, est-ce qu'ils ont pas d'abord choisi la musique et fait la série dessus ou quoi que ce soit? Parce que Tarantino faisait ça sur ses films. Mais est-ce qu'il y a des musiques comme ça? Tu nous as parlé tout à l'heure de l'importance de la musique sur Arcane. Est-ce que vous avez des liens entre la musique vraiment et la série qui ont fait que ça Twin Peaks, si t'as fait un peu
Peaks, voilà. La musique de Twin Peaks fait partie prenante de l'identité de la série et effectivement a participé à son succès aussi parce que les ventes du disque ont explosé, ça reste un des disques plus vendus des années 90. Donc oui, ça marque complètement la série effectivement. Ouais.
Qu'on n'a pas beaucoup de disques là tu viens de parler Twin Peaks, c'est sûr, mais d'autres qui ont été beaucoup achetés parce que c'était la musique de cette série-là ou quoi que ce soit.
Moi j'ai en tête éventuellement la série Westworld, alors je pourrais pas dire absolument que la série a été écrite en fonction de la musique, mais en tout cas Ramin Djawadi, qui est le compositeur de la BO de Westworld, avait déjà opéré sur Game of Thrones, donc on avait déjà... on savait qu'il était bon en tout cas dans cet exercice parce que la BO de Game of Thrones avait été quand même beaucoup aussi remarquée et je pense que Westworld a été conçu avec l'idée qu'il traiterait la BO, avec que Ramin Djawadi traiterait la BO et en plus de ça il y a vraiment un travail en plus qu'il a fait sur des reprises de classiques du rock mais dans un style justement western parce que Westworld c'est des gens dans un futur proche qui vont s'amuser entre grands guillemets parce que c'est quand même parfois très trash dans un parc d'attractions futuriste dans lequel des robots agissent tels que des humains pour comme une sorte de Disneyland dans lequel qui serait peuplé comme ça de robots humanoïdes très réalistes et effectivement ça donne une vraie identité en tout cas dans les premières saisons à ce parc d'attractions et à cette ambiance western revisitée quoi.
Ouais, parce qu'après il y a quand même les Simpsons, dans les animés il y a quand même des musiques qui ont été ultra importantes. Je pensais, les mystérieuses cités d'or, par exemple. Il y a les gens, ils écoutaient la première note pendant 2 secondes, on en parlait tout à l'heure, ils savaient te dire
peut-être que c'est parce que c'est notre enfance aussi.
Ouais, peut-être ça.
Mais Nicky Larson, Inspector Gadget. Changement, on écoutera du coup, on finira par Mogwai parce qu'on va plus avoir le temps, donc on finira par écouter cette musique tant attendue de Mogwai. La meilleure série thriller pour vous, et ça je suis intéressée parce que c'est ce que je préfère.
Ah,
est-ce que vous en avez une
peut-être avoir des choses à nous recommander d'ailleurs, parce que moi je suis pas votre... un grand spécialiste. Moi j'ai pensé tout de suite à un classique, on va dire, en tout cas sur ces premières saisons, qui a été 24 heures chrono, qui reste pour moi quelque chose d'hyper intéressant dans l'aspect tension du thriller.
Ouais, mais c'est pas policier plutôt, non, c'est thriller pour toi?
Ouais, je sais pas, peut-être que j'englobe un peu dans un truc un peu large, mais
c'est stressant. C'est comme le truc en prison là. Moi, j'ai saison, t'es tellement tendu devant ton, tu te détends pas hein, de toute ta soirée. Mais 24 heures bien foutues, ouais.
Effectivement, il y a le côté très temps réel qui faisait que on suivait cette enquête comme ça de manière très haletante. Et récemment, je pourrais éventuellement citer une série qui s'appelle Night Agent, dont la saison 1 est pas mal, faite par la personne qui était derrière The Shield, pour ceux que à qui ça parle. Mais la saison 2 est vraiment pas folle. Donc n'allez peut-être pas jusqu'à la saison 2, mais ça serait un peu ça auquel je pense, moi. Mais je suis pas un énorme...
Mindhunter, tu parlais tout à l'heure aussi, qui est très bon aussi, Mindhunter.
Génial, ouais.
Et toi, Briac?
En fait, oui, le thriller, c'est un peu embêtant, parce qu'en fait, c'est un genre qui est pas vraiment défini, c'est un peu les frontières de ce qui est thriller ou pas. Tu disais, est-ce que c'est policier ou est-ce que c'est... En fait, je crois que c'est surtout le suspense qui définit le thriller le rapport. Ouais. Et donc, j'ai cherché... Bon, moi, il y a une série, c'est The Shield, qui était vraiment une série où je me demandais, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et j'ai bouffé les épisodes pour voir ça. Mais peut-être une qui me marquerait vraiment dans ce rapport au suspense, en fait, c'est Better Call Saul. Spin-off de Breaking Bad, parce que ça joue sur donc ce personnage d'avocat complètement corrompu, assez ignoble qu'on découvre dans Breaking Bad, et qu'on va retrouver donc 10 ans plus tôt, alors que c'est un mec super, super bien et qui essaie de faire les choses bien. Et tout le suspense de la série, c'est comment il va devenir celui qu'on a vu dans Breaking Bad. Et donc, c'est un suspense qui te brise le cœur aussi au fur et à mesure que tu regardes la série. Et donc, là, une utilisation du suspense que j'ai trouvé passionnante, du coup, et un rapport émotionnel assez fort.
Et faut-il avoir vu Breaking Bad pour voir Better Call
Saul? Tu n'es pas obligé. Ça peut fonctionner sans, mais je pense que c'est encore plus riche si tu peux avoir vu Breaking Bad avant.
De ce que tu
mais
en racontes.
Si tu la regardes, t'auras envie de voir Breaking Bad derrière. Donc, ça va être une boucle de toute manière.
Bah en termes de thriller, moi, c'est tous les David Tennant. Alors, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, ce mec-là. Et du coup, j'ai regardé tout ce qu'il avait fait dans la Broadchurch, c'est incroyable, en fait. Puis ces deux acteurs, là, cette actrice-là, elle est géniale. Elle joue dans The Crown aussi. Elle joue dans The Crown ou Peaky Blinders. Grosse claque aussi avec Inside Man, mais que je vous conseille, avec David Tennant. Il y a eu Mon Petit Reine aussi, qui est classé en thriller. Mais bon, vous l'avez vu, Mon Petit Reine? L'histoire vraie de la folle qui est érotomane, en fait, voilà.
Gros succès de l'année dernière, ouais.
Ouais.
Sur Netflix.
Et Ben Beo, d'ailleurs, aussi. Et Présumé Innocent, que je vous conseille aussi sur Apple, avec Jack Gyllenhaal. Voilà. T'en as un thriller à nous conseiller, toi, Arnaud?
Non, je me demandais, à vous écouter, est-ce qu'un film, une série qui s'appelle Big Little Lies, du coup, vous classez ça, alors, en thriller, en...
Oui.
Ouais.
Ah pour moi, oui, je sais pas vous, mais...
Ouais, il y a une dimension, parce que oui, on a créé un suspense au début, on sait que quelqu'un va mourir, donc on va essayer de voir, peut-être pas le thriller le plus haletant qui existe, parce que c'est pas forcément l'aspect le plus important de la série, mais il y a une dimension thriller, je pense. Ouais.
D'accord.
Bien d'ailleurs, Big Little Lies, carrément. On vient à la question hyper importante pour vous, et là, on n'a pas 12 heures, malheureusement, mais alors, la meilleure série SF de tous les temps, ce serait...
On va forcément se faire des ennemis parce que c'est hyper compliqué de répondre à cette question, tellement il y en a. De tous les temps, c'est hyper dur.
Une que vous auriez vraiment envie, si moi par exemple, j'aime pas la SF, tu vois, et ben, vous avez envie de me faire découvrir et de me faire kiffer, vous me conseillez quoi?
Moi, je te conseillerais Battlestar Galactica.
Ah ouais?
Ouais.
Qui passait sur M6, là?
Ça passait sur M6. Non, alors, il y a le remake. C'est la série de 2003, qui est un remake.
Ça, c'est
une
nouvelle version.
Qui est une série qui est justement pour les gens qui n'aiment pas la SF, souvent qui permet d'accrocher. C'était le cas de mes parents, par exemple.
Ouais.
Et qui est une des meilleures séries des années 2000, qui est hyper bien écrite, qui est remplie de rebondissements, qui joue, en fait, qui parle en fait de la guerre contre le terrorisme, la guerre en Irak à travers un système d'allégorie aussi, qui pose beaucoup de questions politiques extrêmement intéressantes et qui pour moi se tient jusqu'au bout. Tout le monde n'aime pas les dernières saisons, moi je trouve assez fascinante, mais une recommandation et qui je crois est dispo sur Amazon facilement.
Est-ce qu'il y a des personnages qui couchent ensemble?
Il y a des personnages qui couchent ensemble.
Bon bah ça va, je vais peut-être regarder. Guillaume?
Moi je pourrais vous conseiller une série qui n'est pas trouvable en France, donc je vous laisserai vous démerder pour la trouver, elle est trouvable par ailleurs, qui pour moi représente ce que j'ai vu de plus SF et extraterrestre ces dernières années, c'est Scavenger's Reign. Donc malheureusement ça ne marchera pas sur toi puisque c'est une série d'animation, je suis désolé.
Ah non, ça marche pas sur moi.
Mais c'est la représentation d'un monde extraterrestre le plus le meilleur que j'ai pu voir ces dernières années, dans le sens où on suit des personnages qui un peu en mode alien, donc les films, se retrouvent dans un vaisseau qui va se cracher sur une planète extraterrestre, donc, et qui vont devoir survivre et découvrir cet écosystème. Et en fait, la série a été notamment inspirée par le créateur dans ses visionnages qu'il avait de séries documentaires animales où il voyait des trucs incroyables, les animaux se créaient des écosystèmes, etc., etc. Et il s'est dit, comment je pourrais imaginer une planète avec une faune et une flore extraterrestre où vraiment ça fonctionnerait, hein, tout un écosystème. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on ne peut vraiment pas s'attendre à ce qu'on va voir. Tout est très twisté, tout est très original. On a des repères visuels sur certaines choses, on a des animaux, des plantes, mais peut-être que les plantes sont des animaux, peut-être que les animaux sont des plantes, peut-être que c'est un mélange, peut-être qu'il y a des cycles de vie qu'on va pas comprendre mais qui vont être incroyables. Et on est vraiment plongé, et moi j'ai jamais vu ça, que ça soit au cinéma ou en série avec des vrais acteurs, autrement qu'en animation avec cette série, de ce dépaysement là et ce réalisme quelque part, poétique. Ouais.
Quel éloge. Tu sais quoi, Guillaume, si Vidéo Futur existait encore, tu serais le meilleur vendeur de France, je pense.
Arrête, ça serait vraiment c'est un crève-cœur que ça soit fini, ça.
Ah, c'est clair. Si vous pouviez être dans la peau d'un personnage de série, vous aimeriez être lequel? Code Quantum, c'est moi qui ai pris.
Moi, j'aimerais bien être Kramer de Seinfeld, je ne sais pas si...
Ah ouais?
Ouais, je me suis dit, donc Kramer, ce personnage...
Pour écrire toutes les blagues de Gad Elmaleh.
Ah oui, Seinfeld, oui, c'est vrai.
Faut avoir la ref.
Et donc Kramer, personnage, c'est le voisin de Seinfeld et qui est sans gêne, mais il lui arrive plein de trucs, mais il s'en sort toujours et il a pas besoin de travailler. On sait pas comment il se démerde. Je dis, ah, j'aimerais bien être comme ça. Si on
c'est long. T'as pas le droit de dire Scrubs.
Non, je vais pas dire Scrubs. un personnage complètement obscur qui s'appelle Roland Tyler, d'une série assez obscure des années 80-90 qui s'appelle FX Effets Spéciaux. Voilà, c'était c'est une sorte de MacGyver, sauf que le mec ne solutionne pas ses problèmes avec ce qu'il trouve sous la main. Lui, il fait partie d'une équipe de cinéma. Et en fait, avec son équipe de cinéma, ils vont créer des illusions, des effets spéciaux, user d'effets spéciaux pour se sortir des situations contre les méchants. Et donc, à l'époque, j'avais trouvé ça génial. Et avec ta question, je me suis dit, ah, ça doit être cool comme métier, ça. T'as à disposition un studio avec plein de gadgets cinématographiques, des écrans verts, de la fumée, des costumes, des trucs comme ça, et tu fais des enquêtes et tu solutionnes des problématiques auprès des gens, et voilà,
ça doit être pas mal. Et à l'instar de MacGyver, il a pas de nuque longue.
Eh ben, je crois que si, malheureusement.
Ah merde, ah, c'est un truc.
C'était un peu la référence, je crois.
La meilleure bande originale de série, vous l'attribueriez à qui?
Je vais très rapidement prendre la parole parce que j'en ai déjà un petit peu parlé. Moi, je pense que Westworld, c'est pas la meilleure, mais c'est une qui m'a pas mal marqué ces dernières années. Ouais.
Alors moi, j'aurais pu dire Twin Peaks, mais je vais dire Carnival, qui est une série du bio de 2003, entre la série historique et fantastique, et qui a une bande-son de Jeff Beal, qui a fait aussi Rome, House of Cards, et bande-son qui mêle éléments orchestraux avec aussi vraiment arrangements bluegrass, vraiment musique américaine, fiddle, banjo. Ça m'a fait acheter un banjo, tellement je l'ai aimé, c'est dire. Et qui en plus est intéressante parce qu'il y a tout un travail de leitmotiv associé au personnage qui fait que tu peux deviner des rebondissements si tu fais attention aux thèmes qui sont associés à chaque personnage.
On n'a plus le choix, on n'a plus qu'une seule question, les gars. Donc j'ai choisi quand même la plus intéressante. En 2025, qu'est-ce qu'il faut absolument voir? Donc votre top 3 à voir ou à prévoir de voir.
Ok, c'est parti.
Allez.
Prenez des notes. Fallait faire des choix. Moi, aujourd'hui, je pense qu'avec justement les plateformes et l'accessibilité de certaines anciennes séries, pour la culture sérielle, je pense que c'est cool de se mater X-Files et Lost. Franchement, il y a énormément
là,
de séries.
Là, je te parle de séries qui sortent et toi, tu me fais des séries qui sont
tu m'as dit
qui
top
ont
3.
20 ans. Bah, qu'il faut voir en 2025.
Bah, elles sont ressorties.
On attend quoi comme nouvelle saison?
Ah, en 2025, ce qu'on attend cette année, bonne question. Fallout saison 2. Voilà, moi, je dirais ça. Fallout saison 2. Adaptation, on en parlait, de jeux vidéo,
ouais,
qui a très très bien fonctionné, avec notamment Walton Goggins, excellent dans une sorte de personnage, tout se reboucle de zombies conscients, de shooter à des espèces de produits bizarres qui le jouent extrêmement bien. Une des toutes meilleures adaptations d'un univers de jeux vidéo de ces dernières années, je pense que voilà, sur Prime, c'est de la bonne.
Et j'attends la version série d'Alien qui arrive en août par l'auteur de Fargo et de Légion. Donc
Alien
plutôt
Earth.
Prometteur à voir. Et puis sinon, un très bref top 3 de 2025. Alors il y a The Pit, cette série hospitalière dont on a évoqué avant, que je recommande.
Je vais me précipiter de voir.
Je dirais il y a The Rehearsal, qui est une série entre fiction et documentaire par Nathan Fielder, qui est un comique américain. Donc c'est sa deuxième saison qui est sortie. Je dévoile pas trop, mais à regarder parce que c'est vraiment une des fin de saison les plus surprenantes que j'ai vues, où on apprend un truc complètement dingue et qui est vrai. Donc j'en dis pas plus, allez voir The Rehearsal, c'est fascinant. Okay. Et Duster, qui est une série qui est en train de diffuser en ce moment, avec Josh Holloway, le Sawyer de Lost, et créé par J.J. Abrams.
Ah ouais.
Donc première série où J.J. Abrams s'implique depuis une quinzaine d'années, et qui est un espèce de jeu sur les polars des années 70, ça se passe en Arizona, la Blaxploitation, super bande son funk, soul, recommandé, là c'est pas fini encore, mais là où on en est pour l'instant, c'est vraiment très très sympa.
Histoire de la première femme noire dans le FBI, c'est ça?
C'est ça.
Ouais.
Histoire
excellent.
Réelle, du coup.
Eh bien, tu me rediras ça après, parce que je vais mettre dans mes notes et je pense que ça tombe bien, je partais pas en vacances. Donc voilà, on va se quitter du coup, c'était très court, on pourrait même en faire 12 des émissions avec vous, c'était super cool en tout cas de vous avoir écouté.
Merci,
merci beaucoup. Vous revenez pour l'année prochaine, on se fait une spéciale série chaque année.
C'est la saison 2.
Et ben voilà, Arnaud, on se quitte avec un morceau qui te tenait à cœur, donc on va finir avec.
On en a parlé déjà beaucoup, mais en tout cas, Mogwai avec le morceau Hungry Face, parce qu'il y a des morceaux de séries qui ont des noms. Souvent on dit tiens, tu peux mettre le générique de, en fait ce morceau il a un nom, c'est Hungry Face, et le groupe Mogwai, c'est la série Les Revenants. Je vous conseille de la voir si vous l'avez jamais vue. Des bisous.
Ouais, bonne semaine.
Et
salut.
À très très bientôt.
Salut.